Merci, bonjour à tous et très heureux de me retrouver en Bretagne. Voilà, donc on m'a demandé de parler sur l'évangélisation. Effectivement, cette dimension de l'évangélisation a été assez importante dans mon propre parcours de vie lorsque, comme on l'a dit, j'étais travaillé au ministère des Finances à Paris. Et puis j'ai été amené à rencontrer l'évangélisation d'abord en Afrique. Puisque j'avais fait à l'époque, on avait le service militaire obligatoire, mais lorsqu'on a fait des études supérieures, à la place du service national dans l'armée, on pouvait être envoyé en Afrique ou enfin, dans d'autres pays étrangers pour remplir un service civil. Et moi, j'ai travaillé donc au ministère des Affaires étrangères à N'Djamena, au Tchad. Et comme je ne connaissais pas trop, il se trouvait que j'avais un voisin qui était un pasteur évangélique. Donc j'ai eu la première fois, moi j'étais vraiment d'origine catholique, dans ma propre histoire familiale, personnelle. Et là j'ai rencontré un pasteur évangélique. Ce qui m'a beaucoup frappé, c'est je dirais l'ardeur, le feu. Et c'était un homme qui était vraiment plein d'ardent pour la mission, d'ardeur pour la mission. Et moi, donc je l'ai suivi un peu dans son cheminement, et donc on allait dans les villages, on faisait du porte-à-porte, on parlait aux gens, et je dirais que ça m'a beaucoup stimulé, non pas pour devenir protestant, mais encore plus catholique. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai découvert au contact de ce pasteur, c'est vraiment la dimension de l'évangélisation directe, de l'annonce de la foi. Et quand je suis revenu à Paris, j'ai effectivement trouvé la communauté de l'Emmanuel, où j'ai commencé à m'investir dans l'évangélisation du porte-à-porte. On faisait ça dans le quartier latin, on faisait ça sur les Champs-Élysées, des groupes, on priait ensemble, et puis on allait faire à la rencontre des gens qui étaient dans la rue. Et c'est ce cheminement-là qui m'a conduit à un moment, par rapport à mon travail, de me dire, j'ai des moyens de vivre, mais est-ce que j'ai suffisamment de raisons de vivre? Et fondamentalement, la question de ma vocation s'est posée. Donc vraiment, je peux dire que ma vocation vers le sacerdoce est née de ce désir d'évangéliser, de porter l'annonce du Christ à ceux et celles que je rencontrais. Donc c'est à partir de cette expérience que je voudrais vous donner quelques éléments qui sont pour moi très fondateurs de l'évangélisation. La première chose, c'est de se dire que ensuite il y aura une place aux questions et pour rendre plus vivant cette intervention. La première chose, c'est de se dire que l'Église existe pour évangéliser. Lorsqu'on voit Jésus, il appelle ses disciples, il leur dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples. » Voilà, il choisit les disciples pour en faire des apôtres, des témoins. C'est vraiment intrinsèque à la vie de l'Église que l'annonce de la foi. C'est pas un à côté, ça fait partie de l'essentiel de l'Église. L'Église est là pour témoigner du Christ, du message de l'Évangile. Donc c'est l'ADN de l'Église. L'Église existe pour ce qui n'est pas encore l'Église, pour ceux qui sont loin d'elle, ce que le pape François appelait les périphéries. Et lorsqu'on est chrétien, on a ce désir vraiment de communiquer aux autres cet Évangile qui nous fait vivre. On ne peut pas le garder simplement pour soi-même, le transmettre. Alors j'ai insister sur quelques points qui me semblent très fondamentaux dans cette transmission. D'abord, il faut se rappeler que les plus grands missionnaires, ce furent les saints. L'évangélisation, elle commence par soi-même. C'est une vie convertie, on peut dire, qui convertit les autres. C'est le témoignage de l'Évangile qui passe avant, passer par des actions, par notre être. La cohérence de notre vie. La cohérence de notre vie. Et puis, ça veut dire que nos actes soient en rapport, en correspondance avec notre foi. Parce que je vois, ce nombre de chrétiens, ils affichent ou ils attestent des croyances, ils affirment des convictions, mais on peut se poser la question, mais est-ce qu'ils les vivent eux-mêmes ? Ça, quand j'évoque la cohérence, est-ce que je vis ce que je dis? C'est ce qu'il fallait, que dans l'évangile on parle de l'autorité de Jésus. On disait il parlait avec autorité. C'est dans ce sens où la manière dont on le voyait vivre soulignait, authentifiait la vérité, la véracité de ce qu'il annonçait. Il prêchait par son être. Et c'est cela qui est le ressort fondamental de la mission, une vie théologale, de foi, d'espérance, de charité. C'est le premier élément qui me semble très important. Un autre aspect qui me semble aussi fondamental, c'est la conviction. La conviction, c'est être habité par des convictions. Ces convictions, c'est-à-dire les certitudes qui ne viennent pas simplement de nous-mêmes, mais que l'on reçoit comme un cadeau de Dieu à travers l'Église. Quand je dis conviction, ça veut dire l'évangélisation, c'est pas simplement je crois en Jésus, mais je crois au message de Jésus que j'ai reçu de lui, que j'ai reçu à travers l'Église. Mais notre foi, elle est rationnelle. Elle passe par notre intelligence. Notre capacité de pouvoir nous adresser aux autres, avec donc possibilité de dialoguer avec eux, mais à partir des convictions qui nous structurent. C'est pour ça que c'est très important dans l'évangélisation qu'on connaisse l'enseignement de l'Église. Ce que l'Église peut dire du Christ à travers l'expérience qui est la sienne, parce qu'elle est le corps du Christ, à travers ce qu'on appelle le magistère, c'est-à-dire l'enseignement multiséculaire de sa tradition. Donc, un, cohérence, deux, conviction. Être des hommes et femmes de conviction. Un jour, j'étais sur... j'étais à Rome dans un bar sur la terrasse d'un café, et puis il y avait un jeune serveur. J'étais le seul client, et bon, il est venu me servir un petit café, et puis il a l'air sympathique, et j'ai commencé à entamer un dialogue avec lui. Et à un moment, je lui ai posé une question. Est-ce que vous êtes chrétien ? J'ai senti très déstabilisé. Alors, il m'a regardé, et puis regardé autour. Il n'y avait plus personne sur le parvis de son bar. Alors, pour ne pas m'offenser, il m'a dit 50-50. Il ne voulait pas me perdre comme client. 50-50. Donc, si vous voulez, quand je dis conviction, ça veut dire qu'on ne peut pas être un chrétien 50-50, à moitié. Apprendre, en prendre et en laisser. Ça veut dire une adhésion. Donc cohérence, conviction. Un troisième C, c'est la charité. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Ce qui est vraiment ce qui caractérise notre foi, et qui nous est révélé par le Christ dont il est le visage, c'est l'amour. L'amour de Dieu pour nous. C'est des personnes, parce qu'elles sont pleines d'amour, et qui, au-delà même des mots qu'elles peuvent prononcer, par leur manière d'être, sont habitées par l'amour, pétries d'amour. Moi, dans ma vie, j'ai eu deux personnes que j'ai rencontrées, qui sont des saints aujourd'hui, qui m'ont beaucoup marqué. Jean-Paul II, c'est lui qui m'a nommé évêque en l'an 2000, et j'ai eu l'occasion de le rencontrer quelques fois lors de visites à Rome. Et je me souviens, la dernière fois que je l'ai vu, c'était en 2004, donc quelques mois avant sa mort. Il était quand même très, très acquigé, affligé par beaucoup de difficultés physiques, hein, il restait là, mais se dégageait de son être vraiment une profonde charité dans la manière dont il avait peu de mots à la fin, parce qu'il parlait très peu, mais il avait en lui un amour, quoi. Ça se sentait, ça se ressentait. Puis une autre personne qui m'a beaucoup marqué, c'est Mère Teresa. J'ai eu l'occasion de la rencontrer à plusieurs reprises en Inde. Et puis un jour, elle est venue à Paray-le-Monial, dont j'étais recteur à l'époque, et elle a passé donc deux jours à Paray-le-Monial. Et je l'ai accueilli, et il y avait d'ailleurs le cardinal Lustiger qui était là à ce moment-là. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est un petit événement. Lorsque j'étais avec elle, je l'accompagnais parce qu'elle devait donner des enseignements, elle allait rencontrer différents groupes. Voilà. À un moment, je me souviens, elle était pour le petit déjeuner, j'étais à ses côtés, elle a pris son thé, elle a mangé quelques tartines, et puis à la fin, elle a fait ce geste. Il y avait des miettes autour du bol. Elle a ramassé les miettes et les a consommées. Mais rien que ce geste soulignait tout ce qu'avait été sa vie. C'était ramasser des miettes d'humanité. Des personnes qui sont fracassées par la vie, blessées. Toute sa vie était donnée aux autres. Donc l'amour se dit pas simplement par des paroles et par des gestes. L'amour se dit par des regards. Il le regarda et il l'aima, dit-on dans l'évangile à propos de la rencontre entre Jésus et le jeune homme riche. Il dit, l'amour passe par un regard. Quand il y a deux amoureux, ils emploient des termes, mon petit chéri, mon petit oiseau, mon petit je sais pas quoi. Puis à un moment, ils disent plus rien parce que les mots sont débiles. L'amour excède le langage, passe par un regard. Et l'amour passe par le regard. Et donc, c'est une densité d'amour qui fait qu'au contact de personnes qui viennent vous témoigner de la foi, on voit qu'il y a en eux plus grand qu'eux, qu'il y a une habitation profonde. Cohérence, conviction, communion. Je dis charité, c'est un parallèle, communion. On n'évangélise pas tout seul. Jésus envoie ses disciples deux par deux. Deux par deux. Parce qu'il y a une complémentarité dans les charismes, peut-être, et le fait que de pouvoir vivre à deux notre foi, par la charité, exprime une communion. On n'est jamais envoyé tout seul. C'est très important, là aussi, dans l'évangélisation, de pouvoir témoigner de notre foi à travers une charité vécue d'abord entre nous, qui se communique par effusion vis-à-vis des autres. Donc la communion. Et c'est pour ça qu'il y a des communautés missionnaires et des instituts missionnaires, et précisément parce que ça exprime, ça porte cette communion fraternelle qui est le vecteur de l'évangélisation. On n'est pas envoyé tout seul. Il peut y avoir une tentation de mettre la main sur sa mission et se l'approprier. C'est mon truc, non. Le fait d'être avec deux autres, bien nous, de la même manière que homme et femme, il les fit, hein, Dieu, au début de la création du monde, hein, à travers une complémentarité qu'on trouve sa propre identité. Donc l'évangélisation implique une communion. Un autre C, c'est constance. L'évangélisation nécessite de travailler dans le temps. C'est pas tout de suite. C'est pas en tirant Dieu sur l'herbe qu'elle pousse. C'est un processus de germination. Et on peut parler de notre amour, donner notre témoignage, c'est très important. On part pas de, on sort pas des théories. On parle d'une expérience de vie qu'on communique aux autres. Mais à partir de ce témoignage, il y a une appropriation qui va prendre du temps, qui va s'inscrire dans la durée. Et ceci, c'est très important. L'évangélisation, ça prend toute notre vie. Toute notre vie chrétienne est portée par l'évangélisation. On a toujours besoin d'être évangélisé jusqu'au bout de notre vie. D'aller jusqu'au bout de ce que le Seigneur veut pour nous. Et bien de la même manière, il y a cette fidélité, cette constance, cette persévérance qui fait que l'évangélisation nécessite du temps. Entre le premier témoignage et puis ensuite, je vais en parler, la catéchèse, vous voyez, il y a l'enseignement, l'intégration dans une communauté, un cheminement personnel, tout ça s'inscrit dans une durée, une constance. On travaille avec le temps. Et puis, un dernier C, c'est le charisme. Chacun évangélise à partir de son talent particulier, de son don particulier. Il y a un proverbe juif qui dit que Dieu ne sait compter que jusqu'à un. Nous sommes uniques aux yeux de Dieu, comme dans une famille, hein, les frères et sœurs, tout en étant englobé dans une vraie communion fraternelle, chacun a son nom propre, sa singularité. Et bien, là aussi, dans l'évangélisation, il faut savoir, mais quel est mon don propre? Il y en a qui ont une capacité d'accueil, d'autres qui auront un peu un zèle, une audace pour aller au-devant des gens, d'autres qui seront plus dans l'écoute, etc. Donc c'est arriver au sein de cette communion fraternelle qui porte la mission, de savoir quel est notre don particulier. Et on découvre ce don au contact aussi des autres. Voilà, c'est quelques caractéristiques, si vous voulez, de la mission telle que le Seigneur nous invite à la vivre, à l'investir. Et c'est vraiment moi-même, par exemple, ce que je disais tout à l'heure, c'est en vivant cette mission, en intégrant cette mission, j'ai découvert vraiment l'appel de Dieu et ma spécificité dans l'Église, ma place dans l'Église. Je voudrais revenir sur quelques points qui me semblent importants dans la mission. Je les évoquais tout à l'heure. La mission, elle commence souvent par une première annonce. Par une première annonce. Ce qu'on appelle le kérigme, première annonce de la foi. Annoncer Jésus-Christ. Et on l'annonce à partir de l'expérience qu'on a soi-même vécue. C'est avoir la capacité, lorsqu'on a vécu une expérience personnelle avec le Christ, de pouvoir en rendre compte vis-à-vis d'autrui. Et ça suppose un petit travail pour dire, si on m'interroge pourquoi tu es chrétien, comment tu vis ta chrétienne, de savoir le formuler, de l'exprimer, pouvoir la dire aux autres. Donc c'est faire une relecture de sa propre vie, et puis ensuite pouvoir avoir la liberté, la capacité de pouvoir l'exprimer aux autres. Et on n'annonce pas simplement soi-même, on annonce ce que Dieu a fait de nous, mais on annonce d'abord Jésus-Christ. Et ça passe par le témoignage personnel. C'est plus, ça touche plus les personnes. Et ensuite, il y a une dimension qui est, je l'évoquais tout à l'heure, catéchétique. C'est-à-dire pas simplement, voilà, Jésus est le Seigneur de ma vie, il est venu sauver l'humanité. Bon, c'est un peu un résumé de notre foi chrétienne, mais ça, trouver des mots aussi pour pouvoir expliquer nos raisons de croire. Fait qu'on a des motifs de croire. L'homme est appelé à une transcendance, à une intériorité. Et ça fait partie, de ce qu'il est, son identité, de son ADN. Savoir aussi, à travers la catéchèse, l'enseignement de l'Église, qui professe la foi, de pouvoir l'enseigner en s'adaptant chaque fois d'une manière pédagogique aux personnes, pour savoir où elles en sont. Ce n'est pas simplement une leçon qu'on apprend par cœur, mais aussi une transmission de choses qu'on vit soi-même. Je crois qu'il y a aussi dans l'évangélisation une dimension donc kérigmatique qui passe par le témoignage personnel, une première annonce, une dimension catéchétique, on pourrait dire apologétique, mais aussi une dimension thérapeutique. Et l'évangélisation, lorsqu'on voit la manière dont Jésus a évangélisé, c'est en s'adressant aux pauvres, aux petits. Dieu nous rejoint à partir de nos fractures, de nos fêlures. C'est lorsque on fait l'expérience d'une pauvreté qu'il y a une quête de salut, besoin d'être sauvé. Et derrière le besoin de santé, profondément, plus profondément et encore, il y a une quête de salut, d'être sauvé. Sans Dieu, notre vie conduit à la ruine, au désespoir. C'est là précisément que se situe notre foi chrétienne. Jésus n'est pas venu simplement nous apporter une espèce de confort spirituel, une fraternité douce à vivre entre nous. Il est venu nous apporter le salut. Sans Dieu, nous ne pouvons pas accomplir notre humanité, nous accomplir nous-mêmes. Une dimension aussi qui est très importante dans l'évangélisation, c'est ce qu'on appelle la dimension eschatologique, c'est-à-dire les fins dernières. La grande question que l'homme se pose, c'est aussi par rapport à la mort. On le voit dans les prêtres le voient au moment où il y a des funérailles, lorsqu'il y a la mort d'un proche, eh bien, il y a des questions très, très profondes qui surgissent. Les personnes âgées qui vont rejoindre bientôt la maison du Père, ben, elles se posent des questions, mais qu'est-ce que va être ma vie et donc, là aussi, le christianisme, par rapport à cette question que l'homme se pose sur lui-même, par rapport à son avenir, par rapport à son futur, c'est une question là aussi qui est un lieu missionnaire très important. L'homme ne peut pas ne pas se poser la question de Dieu à travers la mort. Et seul peut nous parler de la mort celui qui en est revenu, le Christ. Il a traversé la mort. Il ne l'a pas supprimée. Il n'a pas supprimé la souffrance. Mais il a ouvert un passage. Et donc le Christ nous apporte par rapport à ce questionnement fondamental de l'après, de l'au-delà, une question, par rapport à cette question-là, il nous apporte une réponse. Et c'est souvent à partir de cette question sur la fin, sur le malheur, sur la souffrance et sur la mort, que l'évangélisation est amenée à trouver toute son actualité. Pour l'évangélisation, je soulignerai un dernier aspect. Il y a ce qu'on appelle trois transcendantaux, trois manières de rejoindre Dieu. On le rejoint d'abord par, et c'est le chemin que lui-même Jésus a emprunté, on le rejoint d'abord à travers la bonté. Parce que Jésus était, en son humanité, amené à exercer son ministère. Il a guéri les malades, soulagé les souffrants, il a libéré ceux qui étaient aux prises avec des esprits mauvais. Donc c'est vraiment la bonté. L'amour s'exprime par la bonté, par la compassion. Bien, je dirais que c'est le premier lieu d'évangélisation. C'est pour ça que l'Église, à travers les siècles, a beaucoup développé des œuvres de charité pour pouvoir manifester la présence du Christ et annoncer le Christ. Le deuxième chemin, c'est au-delà de la bonté, c'est la vérité. Je vais dire, notre foi est raisonnable. Ce que disait Fides et Ratio, le pape Jean-Paul II, ce qu'a repris aussi Benoît XVI, notre foi qui est rationnelle. Par la raison, nous pouvons, parce que le mot logos, qui veut dire parole, veut dire aussi sagesse, raison. Notre foi est raisonnable. Nous avons des raisons de croire. Pour certains, la foi est simplement émotionnelle. Non, notre foi aussi est rationnelle. On doit pouvoir, par notre intelligence, expliquer les raisons pour lesquelles on adhère à Dieu. Et aussi, c'est la dimension que je voudrais souligner, la dimension de la beauté esthétique. On voit aujourd'hui qu'il y a une certaine, par rapport au discours, on entend suffisamment de discours sur les médias, ou par rapport à une bonté qui peut être récupérée, hein, parce qu'on se sert de la commisération pour faire des choses qui ne sont pas du tout en rapport avec la foi. Il y a une dimension, c'est la dimension esthétique. On parle, vous voyez, quand on découvre un beau paysage, une œuvre d'art, etc., eh bien, quelque chose, il y a une émotion qui nous élève. Quelque chose qui nous amène à peut-être nous poser aussi des questions très fondamentales. On le voit aujourd'hui, combien, par exemple, de personnes qui ne sont pas forcément croyantes, qui rentrent dans une église parce qu'ils cherchent, bon, à travers le silence, la beauté de l'architecture, de l'iconographie, la qualité aussi d'une liturgie, lorsqu'elle est vraiment sacrée, lorsqu'elle est portée par le mystère, une belle célébration, ça touche le cœur. Alors, il ne faut pas s'arrêter à la beauté, parce qu'elle peut être idolâtrique, on peut s'arrêter à la beauté, chercher simplement l'esthétique pour l'esthétique, mais ça crée un émoi, un éveil, ça nous transporte vers quelque chose d'au-delà de nous-mêmes. Voilà. Donc c'est aussi investir dans l'évangélisation, à la fois la bonté, la beauté et la vérité. Voilà, c'est les trois chemins traditionnels lorsqu'on veut évangéliser qu'il faut emprunter. Voilà, de manière très ramassée, ce que je voulais dire par rapport à l'évangélisation, on ne peut pas être chrétien sans être missionnaire. La mission, elle passe par les C que j'évoquais, conviction, charité, charisme, constance, et puis les postures missionnaires, l'annonce charismatique, la catéchèse, la dimension thérapeutique, la dimension eschatologique, c'est les fins dernières, la question de la mort, et puis la question esthétique. Voilà. Maintenant, à partir de ces éléments très rapidement brossés, je suis disponible pour répondre à des questions que vous pouvez vous poser. On a 10 minutes. D'abord, ça passe, à mon avis, par la charité. Moi, je vois, par exemple, il y a des équipes missionnaires, je pense aussi en Bretagne, des fois, des équipes missionnaires qui vont devant des gens. Si on rentre comme des bulldozers, ça ne marche pas. D'abord, notre charité. Et arriver avec le sourire, avec l'attention à la personne. Et puis, ça passe à un moment, lorsqu'on rentre en contact, c'est la première étape, c'est rentrer en contact avec les gens sans forcer la porte. La deuxième chose, ça passe d'abord par notre témoignage. Et ensuite, au-delà de notre propre témoignage personnel, la troisième étape, c'est de pouvoir non seulement dire ce que Dieu a fait pour nous, mais aussi de donner quelques éléments de notre foi. On peut partir des trois vertus, foi, espérance, charité, on va les énoncer. Pour moi, la foi, vous savez, c'est pas simplement une conviction personnelle, c'est pour moi, chaque fois que je dis le credo, c'est quelque chose qui me permet de nourrir, d'approfondir ma foi, elle est liée à un Dieu qui est amour, etc. Et puis la quatrième étape, c'est créer un échange avec la personne. Qu'est-ce que sont les questions ? Et créer une communication avec la personne. Et la cinquième étape, ce que j'ai expérimenté, si vous le sentez, c'est arriver à ce que vous accepteriez que je prie pour vous quelques instants. Là aussi, sans forcer la porte. Mais ça m'est arrivé souvent, vous voyez, prenons un petit temps de prière, un petit moment de silence. Ça peut être aussi possible avec un geste de mettre la main sur l'épaule. Et là aussi, sans que ce soit un geste intrusif et qu'il soit mal interprété. Et des choses comme ça, ça fait passer. Alors, c'est un point de départ, c'est un déclic. Ensuite, il y aura toute une manière dont la personne va être, ce que j'évoquais à propos de la communion, de la charité, l'intégration à une communauté. Pas simplement un contact one shot, c'est comment ça se prolonge. Autre question. Donc, comment évangéliser sans communiquer mes doutes aux personnes qui sont autour de moi? C'est bien évident d'abord que la foi, c'est un doute sans cesse surmonté. Plus on s'approche de Dieu, plus on accueille à la fois des certitudes et en même temps on se pose des questions, oui, parce qu'on est en face d'un mystère qui nous dépasse. Donc c'est pas dire j'ai la foi, il n'y a plus de problème, tout est résolu. Non, plus on découvre et plus on se questionne, c'est normal. Mais je dirais on a d'abord à partager les raisons fondatrices de notre foi aux autres. Et lorsqu'on communique, on évangélise, c'est pas forcément l'étape dans laquelle on va se dire oui, alors je me pose des sérieuses questions sur ceci, sur cela, parce que du coup le doute qui n'est pas résolu peut renforcer le doute de ceux et celles qui sont nos interlocuteurs. Donc je dirais il faut distinguer le travail que l'on doit faire sur soi-même pour, je dirais, approfondir à cette question, aller au bout des interrogations qu'on se pose par rapport à soi. Et quand on est, je dirais, mandaté ou envoyé en mission, on va d'abord parler des convictions qui sont les nôtres. Et si on n'est pas mûr, c'est-à-dire parce que les personnes ils commencent un cheminement ou ils se posent trop de questions, c'est sûr qu'ils ne sont pas forcément immédiatement mûrs pour aller faire de l'évangélisation directe.
Moi, j'avais une question sur l'évangélisation envers des populations qui sont déjà chrétiennes, par exemple des protestants ou des orthodoxes. Est-ce qu'il vaut mieux aller voir des gens qui ont déjà a des choses en commun ou aller voir des gens qui sont complètement hors de la foi.
La foi catholique.
Oui.
Donc cette évangélisation, la question qui est posée, c'est est-ce que je dois aller parler de ma foi catholique à des personnes qui ne sont pas catholiques, mais qui sont chrétiennes, qui sont orthodoxes ou protestantes. Voilà. Voilà. Moi, je sais que j'ai cette expérience qui est la mienne. Moi, je connais tel ou tel pasteur protestant. Ça nous arrive de pouvoir exprimer. Là, j'étais au Festival d'Avignon où il y a un certain nombre de pièces de théâtre chrétiennes qui sont jouées. Bon, j'étais avec j'ai un ami protestant et ça nous en dit. Souvent, on a des prises de parole envers des personnes qui sont là, qui sont spectatrices, etc. Ou même des comédiens où on parle de notre foi, notre foi commune en Jésus-Christ. On a des difficultés, des différences peut-être entre nous sur la manière dont cette foi s'exprime. Mais ce qui nous rassemble est plus fort que ce qui nous y sépare encore. Donc pouvoir ensemble, d'ailleurs c'est un gage d'unité de pouvoir exprimer notre foi ensemble. Ça ne nous empêche pas, entre nous, des fois, d'avoir des débats musclés sur les différences touchant sur le magistère, l'Église, le ministère. Voilà. Je crois que ce qu'il faut, c'est distinguer, c'est l'expression de la foi qu'on peut avoir en commun sur notre foi dans le Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, qui nous révèle un Dieu qui est amour, révèle la paternité de Dieu, dans lequel l'Esprit Saint est communiqué à chacun d'entre nous. Donc ça, on peut le faire sur des fondamentaux communs. Par ailleurs, on peut avoir des dialogues, des débats avec d'autres. Mais c'est vrai qu'aussi, moi je sais, dans ces débats, j'ai eu des évolutions d'un certain nombre de personnes qui étaient chrétiennes et ne partageaient pas la foi catholique, qui à travers ces échanges peuvent évoluer. Donc on a aussi une responsabilité pour partager notre foi, la dire, pas simplement dans un dialogue dialogueux, mais un dialogue dont l'objectif c'est aussi de pouvoir aider les autres à aller jusqu'au bout de ce que la foi implique et signifie.
Comment est-ce que je peux évangéliser quelqu'un qui ne veut pas être évangélisé?
J'évoquais tout à l'heure, on ne peut pas forcer la porte de celui qui résiste. Oui, on s'adresse à la liberté, à la conscience de chacun. On a simplement à dire ce qui est fondamentalement notre foi. Ensuite, ce qu'on voit qu'il y a une fermeture, on s'arrête là. Et notre évangélisation, elle continue par la prière. Ce qui sous-tend la mission, c'est vraiment la prière. Et on sait que le Seigneur, l'Esprit Saint, agit dans les cœurs au-delà des mots qu'on peut prononcer. On dit souvent l'Eucharistie est l'action, c'était je crois Jean-Paul II qui disait cela, est l'acte missionnaire le plus important que l'Église puisse accomplir, puisqu'on fait advenir la présence du Christ à chaque messe. Donc dans cette Eucharistie, nous prions pour toutes ces situations où on ne peut pas forcément parler, attester notre foi, la professer vis-à-vis des autres, mais on demande à l'Esprit Saint de pouvoir intervenir, agir dans les cœurs. Comment parler à quelqu'un qui a peur d'entrer dans une église? Alors il y a différentes peurs qui s'expriment. Quand on dit peur d'entrer dans une église, ça peut être je risque d'être récupéré, ou la peur, ça veut dire je ne sais pas comment il faut faire, comment il faut se tenir, qu'est-ce qu'il faut dire. C'est à différents niveaux. Je crois que d'abord, ça passe par la capacité d'accueil. Parce que j'ai été très frappé de voir, notamment dans un certain nombre de pays, lorsque je suis allé en particulier aux États-Unis, on demande aux pratiquants d'abord de s'occuper de ceux qu'on ne connaît pas. Et il y a toujours à l'entrée de l'église, sur le parvis, des gens qui vous accueillent, bonjour, voilà, je m'appelle un tel, bienvenue, etc. Créez des liens. Souvent, on a dans nos communautés parfois des consommateurs culturels qui sont complètement individualistes, on ne se connaît pas entre nous. Donc ça passe déjà par la capacité d'accueil. Et puis aussi, ça passe par une possibilité de donner des explications, d'accompagner les personnes, pour leur faire découvrir le site, le lieu, ce qui va se passer. Et je crois que, effectivement, beaucoup de personnes n'ont aucune connaissance du rituel lié dans une église. Du rituel, de la signification symbolique. Pourquoi un autel? Pourquoi une voûte qui est dans telle ou telle architecture? Pourquoi le baptistère? Donc ça donne l'occasion vraiment d'une catéchèse. On a la chance d'avoir un patrimoine religieux qui a façonné pendant des siècles notre culture qui est une catéchèse à approfondir et par lequel on peut énoncer notre foi à travers la pierre, à travers la musique sacrée.
Voilà, l'évangélisation, ça passe par la parole, mais une simple attitude, c'est aussi une évangélisation, ça peut être aussi une évangélisation.
Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça passe par le regard, ça passe par l'écoute, la charité. Lorsqu'on dit la charité, c'est une manière d'être par rapport aux autres, c'est par tous les sens. Hein. L'évangélisation mobilise toute notre personne. On peut dire qu'il y a une anthropologie de l'évangélisation. Et on passe par le regard, ça passe par l'écoute, ça passe par aussi la qualité de la présence. Tout notre être est mobilisé dans la mission. On le voit bien dans l'évangile, combien Jésus est touché par cette femme moroïste hein, qui s'adresse à lui, tire le manteau. Il voit, j'ai parlé tout à l'heure du jeune homme riche, alors que les autres ne voient pas, Zachée, vous voyez, qui est au-dessus sur son arbre. C'est-à-dire tous les sens de la personne, tout le corps finalement de la personne est mobilisé dans l'évangélisation, pas seulement le cerveau, pas seulement la parole. Et tout notre être est missionnaire. Alors pour terminer, on va prendre un petit chant. Je vais vous apprendre, c'est très simple. Levez-vous. Il faut d'abord demander, lorsqu'on est missionnaire, le don de l'Esprit, hein, le don de l'Esprit Saint qui nous donne le feu, la flamme, le zèle, l'ardeur, pour être des témoins du Christ. Alors vous répétez après moi ce chant très simple. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Seigneur, ce que le cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que sur moi descende la flamme de ton feu, de ton feu, de ton feu. Que sur moi descende la flamme de ton feu, de ton feu, de ton feu. Pour faire de nous de vrais apôtres, témoins de la Pentecôte. Pour faire de nous de vrais apôtres, de ton feu, de ton feu, de ton feu. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que sur moi descende la flamme, de ton feu, de ton feu, de ton feu. Pour faire de nous de vrais apôtres, témoins de la Pentecôte, pour faire de nous de vrais apôtres, de ton feu, de ton feu, de ton feu. Une dernière phrase qui n'est pas d'un chrétien, mais retenez-la, une phrase de Nietzsche. Si les chrétiens avaient des gueules de ressuscité, peut-être que je croirais. Bon, à vous de jouer.